soir, dans les oreilles loin du front, nous vous emmenons en terre rebelle. 14 janvier 2011. La date restera dans toutes les mémoires. Le peuple tunisien s'est levé, la population s'est soulevée, une révolution qui a fait tomber Ben Ali et déclenché le printemps arabe. Révolution inattendue ? Oui, mais pas totalement non plus. C'est que la Tunisie, on l'oublie souvent, grondait déjà. Une partie des Tunisiens s'est déjà soulevée en 2008, lors des révoltes dans le bassin minier de Gafsa. Et c'était sans compter tous les Tunisiens et les Tunisiennes qui militaient sous l'ancien régime, pendant la dictature de Ben Ali, à leur manière. Je me suis rendue en terre rebelle, 6 mois après la révolution du 14 janvier 2011. J'ai voulu comprendre ce qui a changé depuis le départ de Ben Ali, et surtout ce que c'est que militer en Tunisie, hier, sous Ben Ali, aujourd'hui, après la révolution, et demain. Je vous emmène dans le Tunis de l'après-révolution, en compagnie de Malika, Hajer, Haïfa, Ali, Leïla, Abdallah, Amin, Sami. Mais avant, un titre de musique que vous connaissez peut-être, du rappeur tunisien Amada, plus connu sous le nom de El Général. Chanson qui a fait le tour du net en décembre 2010 et qui est devenue emblématique de la révolution. Il s'agit de Raïs le Bled, ce qui signifie littéralement « chef de notre pays », « président de notre pays ». Il s'agit d'une adresse à Ben Ali, dont voici quelques-unes des paroles. « Président, ton peuple est mort. Aujourd'hui, je parle au nom d'un peuple écrasé par le poids de l'injustice. Les gens se nourrissent dans les poubelles. Regarde ce qui se passe dans ton pays. Les gens n'ont plus où se nourrir. »
هاني اليوم نحكي معاك باسمي واسم الشعب الكل اللي عايش في الاعداب 2011 مازال فما شكون يموت بالجوع حاب يخدم باش يعيش لكن صوته مش مسموع اهبط للشارع وشوف العباد ولات وحوش شوف الحاكم بالمتراك طاكاتك ما على بالوش مدام ما فما حد باش يقول له كلمه لا حتى القانون اللي في الدستور نفخ وشرب ماه كل نهار نسمع قضيه ركبوها له بالسيف بورطون الحاكم يعرف اللي هو عبد نظيف نشوف فلاحلاش تهرب في نسان ما تحاش بيه زعما ترضى هالبنتك عارف كلامي بك العين عارف مدامك بو ما ترضاش الشر لصغارك الور هذا ميساج عباره واحد من صغارك تحكي معاك من الصفرانس رانا عايشين كل كلاب اشطر الشعب عايشين الذل وثاقوا من كاس تعذاب
رئيس البلاد شعبك مات برشا عباد من زبلك لاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي بارتو وناس ما قادش وين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالسرقات رئيس البلاد شعبك مات برشا عباد من زبلك لاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي بارتو وناس ما قادش وين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالسرقات
رئيس البلاد وطلي يحكي من غير خوف انا حكيت لكن عارف اللي نهايتي كان الكفوف نشوف في برشا ظلم هذاك علاش اخترت كلام بورطا وصوني برشا عباد اللي نهايتي كان الاحلام لكن الى متى التونسي عايش في الاوهام وينها حريه التعبير ريت منها كان الكلام سميتو تونس بالخضراء رئيس البلاد هاكا تشوف اليوم البلاد ولا الصحراء مقسومه على زوج ظروف سرقات بالمكشوف بالغرام الكل بلاد من غير ما نسمي انت تعرف شكون مهالعباد برشا فلوس كانت ماشيه مشاريع وانجازات مدارس صومي صحات بناءات وتعديلات لكن ولات الكلاب فلوس الشعب عباو الكروش سرقوا نهبوا فكوا خطفوا في الكراسي ما سيبوش نعرف لي برشا كلام في قلب الشعب ما يوصلش كان جا الوضع من غير ظلم راني اليوم ما نتكلمش
رئيس البلاد شعبك مات برشا عباد من زبلك لاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي بارتو وناس ما قادش وين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالسرقات رئيس البلاد شعبك مات برشا عباد من زبلك لاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي بارتو وناس ما قادش وين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصباط
اوكي صوت البلاد جنرال 2011 نفس الحال نفس المشاكل والسفرانس رئيس البلاد رئيس البلاد
رئيس البلاد شعبك مات برشا عباد من زبلك لاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي
راسي باردو وناس ما قادش فين تبات. هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالسرقات. بلاد شعب كمان برشا عباد من الزبلة تلات. هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد. مقاسي باردو وناس ما قادش فين تبات. هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالسرقات.
C'était Raïs Le Bled, du rappeur tunisien El Général. Tout de suite, nous allons avenue Bourguiba, dans l'artère principale de la capitale tunisienne, là où s'est déroulée la révolution du 14 janvier. Nous sommes au mois de juin, 6 mois après la révolution, en compagnie de Malika, professeur de philo, engagé et syndiqué. Puis nous entendrons Ager et Haïfa.
Alors là, on est à l'avenue Bourguiba, c'est l'avenue principale de la ville. Devant le théâtre municipal, tu vois que c'est beau. Et le 14 janvier, si les arbres parlent, elles vous diront qu'il n'y a qu'une seule voix. Dégage Ben Ali, dégage, dégage, dégage. C'est aux environs de 15 000 ou même plus. Et on tous, avec la même voix, le même geste avec les mains, dégage, dégage les salauds, dégage les sales, excuse-moi pour les... mais
quand tu dis geste de la main, c'est que c'est un geste de gauche à
droite. À gauche, oui, quand tu balais, c'est comme balayer. Il y a des gens même qui ont apporté des balais. Je vous assure, hein, on fait de la même main, dégage, dégage, c'est-à-dire on doit vous balayer. Et on les a balayés. Et personnellement, avec mes amis et camarades, on tient les arbres, comme ça, on les embrasse tout en pleurant. On leur dit, voilà, parce qu'ils ont coupé quelques arbres avant. Ils ont coupé beaucoup même d'arbres. Et les quelques arbres qui sont restés, on leur dit, voilà, vous êtes vivants comme nous et vous avez vécu avec nous la révolution. Et crois-moi, réellement, on embrasse les arbres et on pleure. C'est formidable. Et alors, à partir de cette petite partie, là, ça va commencer le ministère de l'Intérieur, notre fameuse appartement noir, on l'appelle. Et là-bas, tout est, évidemment, il y a les caméras et tout, mais on s'en foutait le 14. Ça y est, c'est vie ou mort. Avant, on n'osait même pas passer, il y avait la police. Et quand on passe, bon, ils peuvent te chercher à n'importe quel moment là. Ils vous embêtent ou j'en sais. Ouais. Là, voilà, ça commence le ministère de l'Intérieur. On s'en fout maintenant, on passe. Il y avait les snipers partout là-haut, mais on sait qui sont. Moi-même, j'ai vu par mes propres yeux un sniper. Quand j'ai demandé à la police, ils m'ont dit non, c'est quelqu'un qui fait la sauvegarde des citoyens. Bon, ça, c'est une connerie. Mais l'armée, c'est partout. Là, s'il y avait l'armée, et vous ne voyez que les roses. On donne des roses à l'armée, on les embrasse, on pleure, on rit, on danse et
parce
tout.
L'armée vous a protégés.
Elle nous a protégés. Elle nous a protégés. Ils ont refusé de tirer sur nous. Et ils nous ont aidés à dépasser les moments difficiles. Parce que 14, 15, 16, 17, jusqu'au même 20 et 21, même 20 et jusqu'à la fin de janvier, on va dire, c'est les snipers. Et l'armée nous encourage et c'était extraordinaire. Je ne croyais pas que je vais vivre, que j'aurai la vie pour vivre la libération de mon pays. Ouais, ah oui. Parce que réellement, même au temps de Bourguiba, on n'a pas vécu ça. On n'a pas vécu une libération réelle. On a été très solidaires. Et quand quelqu'un, la police frappe un, tous on se jette. Et puis par la suite, la police, elle s'est retirée. Et on marche pour faire tomber le RCD, le parti État. Parce que chez nous, c'est pas l'État et la partie, c'est le parti État. C'est le totalitarisme complet et bête. Et là, tu vois la petite, une voiture avec comment dirais-je, drapeau de sport, c'est l'Espérance. On a été gouverné par un régime policier qui n'encourage que une seule partie ou deux parties de football, c'est l'Espérance et le club africain. Et notre vie politique, c'est entre ces deux clubs-là. Mais c'est là, cette génération qui a balayé Ben Ali, la génération foot. On va traverser.
Ça va être difficile.
Ouais.
Il va falloir s'imposer.
Non, ils doivent me voir. Fais attention. Là, on traverse. Et il n'y avait plus de voiture. Toute la rue, elle était toute vide. Mais plein de gens, tu ne trouves pas de comment faire bouger juste le dos. Et tu vois, mais il y a un paradoxe. Tu vois la librairie, là, elle s'appelle El Kiteb, c'est-à-dire le livre. On n'a pas été touché, rien. Vous voyez les cafés? Eh bien, quand on fait les marches, parce que c'était des jours et des jours faire des marches, on casse rien, on touche à rien. Et la bibliothèque, vous la voyez, elle est comme elle est depuis des années. Et elle est restée ouverte pendant le 16 et le 17. Elle est restée ouverte. Ouais.
Alors, le 14, c'était un rêve. C'était, je sais pas, c'était quelque chose de très fort. C'est un sentiment très, très, très fort. Tout simple, c'est-à-dire que tu as le sentiment que tu dois être sur place avec tout le monde sans penser à rien du tout. Et tu risques justement ta vie. Et c'était vraiment là, quoi. Le menace était là, quoi. Mais tu le fais quand même.
Et toi, t'es descendue ?
Oui, bien sûr, comme ça, spontané, sans rien, sans penser à absolument rien du tout. J'avais peur, maman avait peur, tout le monde, toute la famille, tout ça. Et moi, je pensais à rien du tout. Ce que j'ai senti était beaucoup plus fort que ma peur et tout. C'était le top, top, top. C'était l'explosion. Voilà. Ben Ali, dégage. C'est simple et direct, quoi. Voilà. Ben Ali, dégage. On veut plus rien, quoi. Pour être honnête, personne, et je défie n'importe qui, n'importe quel Tunisien qui dit « je le voyais venir ». Non, c'était pas vrai. Tellement il était là, tellement il était fort. Tellement il c'est-à-dire il s'est maîtrise tout, il manipule tout. C'était pas, non, on le voyait pas venir du tout. Mais je sais pas, et comme ça, c'était justement la goutte qui a oui. Quand j'ai vu le nombre, c'était énorme. L'avenue était tu peux même pas, oui, c'était tout noir. Voilà, je me suis dit, bon, c'est bon, c'est la fin, ça c'est sûr.
La révolution est venue à cause de Ben Ali.
Voilà. Oui, bah oui.
Au début, on n'ose pas de dire le mot Ben Ali.
Le ma'allem.
Bah c'est ça, le ma'allem. Le ma'allem. On avait le ma'allem ou le ma'allem ou la bouna. Le ma'allem, c'est-à-dire le chef. Ou sinon notre père. Ou sinon l'autre. Ben oui. Bah oui. Ah oui, le ma'allem.
Oui, on ne dit pas le président.
Hey, le président,
on
non.
Sans prénom. J'ai jamais parlé de. De la politique avec des amis ou jamais.
Et même pas avec votre famille ?
Non, c'était un tabou. Ils ont peur. Et pourquoi tu discutes justement à propos de ce sujet ? Laisse tomber,
arrêtons.
Voilà, aller au prison tu vas nous causer des problèmes. Et c'est vrai, c'était réel, c'est vrai. Mais il fallait confronter.
Mais après le 14, est-ce que toi, avec ta famille, quelle discussion vous avez pu avoir ? Puisqu'avant, c'était le tabou.
Tu vas rire maintenant. Eh ben, par rapport à moi, par exemple, il fallait, pour papa, il le fallait à peu près 6 semaines, 1 mois et demi, voire 2 mois, pour qu'il a pris conscience que ça a changé. Bon, Ben Ali, je pense qu'il a parti. Hein. Je pense tout compte fait, il n'est plus. Tu vois, quand il regarde la télé, je t'assure. Mais il était formaté.
Moi.
Formaté.
Je t'assure. Parfois, lorsque je suis seule, je dis, Ben Ali, parfois je parle à moi-même, je dis, c'est pas vrai.
Oui.
Aujourd'hui, elle est étonnée, elle dit, oh là là, mais c'est incroyable. Chaque jour, elle dit, oh, c'est incroyable. Ben Ali,
il est parti.
On est étonnés.
On parle d'une manière à l'aise, tout simplement. Les gens sont beaucoup plus à l'aise de toute façon.
Elle nous a, je crois, là, gouverné 23 ans. Hein.
Oui.
23 ans. Il
yes. Moi, j'ai senti l'injustice quand, par exemple, on est en même classe, par exemple, on a passé le bac. Moi, j'ai 14 de moyenne et je ne peux pas avoir la file, donc je sais pas l'option que je veux. Par contre, il y a une amie ou quelque chose comme ça qui a 10 à peine, qui a justement réussi, donc rattrapage, qui peut faire médecine, par exemple, rien que parce que son papa, ou il a quelqu'un, justement, qui est bien, voilà, un piston, voilà. J'ai senti l'injustice quand, par exemple, tu dois être hospitalisé ou tu es malade et si tu n'as pas de l'argent, tu vas justement à la santé publique et tu peux voir toute la merde qui peut exister hein, sur cette terre. Hein. Donc c'était injustice sociale, si tu veux. Ça reflète tout. Parce que nos parents, la génération d'avant, justement, vivaient ça et c'était normal pour eux. Et d'ailleurs, à propos de ce sujet, je les en veux comme tout. Parce que c'est à cause d'eux, justement, la génération de mon père qui nous a causé tout ça. À cause de leur silence, à cause de leur lâcheté.
Oui. Mais là, aujourd'hui, ton père commence à réaliser, j'imagine. Oui. Quelle discussion tu as avec lui ?
Je ne discute pas avec lui, tout simplement parce que je l'en veux. Je l'en veux. Et jusqu'à maintenant. Et jusqu'à maintenant, j'essaye de couper la communication parce que... Je sais pas, je l'en veux tout simplement. Mais juste entre parenthèses, je voulais te dire que papa était journaliste. Il était rédacteur en chef à l'agence Afrique Presse. C'est l'agence qui collecte les informations pour justement les redonner aux journaux, par exemple les télés, les radios et tout ça. Et donc papa avait cette responsabilité, sa responsabilité était double. Justement, il n'a rien fait. Et moi, quand j'étais moins jeune, quand il travaillait encore, parce qu'il est à la retraite bien sûr maintenant, je lui dis, mais pourquoi justement, vous voyez l'injustice, vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et tout ça, pourquoi vous n'écrivez pas pour... Non, il ne faut pas faire ça, en fait, voilà, c'est mon gagne-pain, je ne dois pas, voilà, tu vois ce que je veux dire ? Pour te dire pourquoi je l'en veux encore. Parce que, justement, je le répète, si on a subi tout ça, c'est à cause d'eux, hein, à cause de leur silence et de leur lâcheté, surtout.
Juin 2011, petite ruelle de la Médina, j'ouvre la porte d'une belle maison ancienne. Là, des jeunes se réunissent pour débattre de la vie politique tunisienne à l'approche des élections du 23 octobre. Depuis, la révolution, ça bouillonne. Et comme beaucoup de Tunisiens, ces jeunes ont créé une association. Ils organisent des débats avec les différents partis politiques et sensibilisent la population tunisienne pour les élections. Je rencontre Ali, un jeune blogueur qui a participé à la révolution, et je lui demande de me raconter son parcours militant.
Oui, j'ai 23 ans, je suis un étudiant en sciences informatiques industrielles et automatisme. Mon expérience personnelle a commencé déjà avant le 14 janvier. Depuis mon entrée à l'université, j'étais un militant parmi les jeunes de l'Union Générale des étudiants tunisiens. On a milité contre le système de Ben Ali et on a essayé de faire une sorte de revendication des situations des étudiants étudiant dans la fac, dans les facultés et tout. Et petit à petit, j'ai construit ma connaissance en politique et j'ai essayé, dès le 17 décembre 2010, de contribuer dans la révolution qui a été déclenchée à Sidi Bouzid en critiquant la violence agressée vers le peuple, en partageant sur Facebook, sur YouTube, sur Dailymotion, les séquences, les articles et les témoignages à Sidi Bouzid, à Gasserine, à Tella. Et ensuite, dès le 12 janvier, on a décidé de descendre dans les rues de la capitale et de dire notre mot. Ben Ali dégage, on ne veut plus ce régime agresseur. Le jour du 14 janvier, j'ai pas attendu à ça. J'ai cru que les mêmes visages que je les connais, ils vont venir, c'est tout. Mais petit à petit, de 9h du matin jusqu'à 1h30 de l'après-midi, la foule est en train de grandir petit à petit. Des gens qu'on ne les connaisse pas, des vieux, des grands, des jeunes, avec des pancartes, avec le « dégage, dégage, dégage ». J'ai pas attendu ce nombre de gens qui viennent de nulle part. Je l'ai dit, nulle part. Sans orientation, sans appel aussi, sans appel surtout, des gens qui ont de passage, je pense qu'ils sont de passage. Personnellement, j'ai pas cru au peuple tunisien qui habite à la capitale. Peut-être parce que depuis les revendications de Erdaïef Metlaoui en 2008, ce sont des revendications sur les mêmes causes que maintenant, mais les Tunisiens du capitale ou bien de Sousse ou de Sfax, ils n'ont pas réagi. J'ai cru que ça sera la même aussi pour les revendications de Gasserine, telle à Sidi Bouzid. Grâce à l'accumulation, les médias tunisiens qui n'ont rien dit jusqu'à le 14 janvier, or que le Jazeera, France 24, CNN, BBC, ils déclarent chaque jour les nombres de morts. Et suite à ça, les gens qui ont été très proches du ministère de l'Intérieur qui ont réagi. Avant, on a milité en cachette. On n'a pas le droit de communiquer, de s'exprimer dans les lieux publics et de donner notre avis dans la vie politique ou bien de critiquer le système. Maintenant, on a toute la liberté d'écrire des blogs, on a toute la liberté de critiquer le travail du gouvernement, de dire notre mot. Avant, nos blogs ont été censurés, nos pages Facebook aussi, la police politique nous surveille presque 24 sur 24, nos téléphones sont sous écoute, même on les écoute en appelant un ami ou un autre, on les écoute en train de chuchoter en discutant d'autres choses. Ça a été effrayeux. On a essayé de survécu sous le régime de Ben Ali en cachette.
Ça te faisait pas peur?
Ça te fait peur en voyant tes parents, en voyant tes amis qui te parlent discrètement, qui n'essaient pas d'être avec toi dans le même café, de limiter les contacts, que tu ne peux pas faire des nouveaux amis qui tu ne les connaisses pas, que t'as peur qu'ils se rendent de la police politique ou bien de la partie de les RCD, qui font partie de les RCD. Ça a été toujours, ça nous fait toujours peur. Mais ça nous renforce. Par exemple, une anecdote, une amie qui s'appelle Lina Benmehni,
elle est blogueuse, Lina.
Oui, la fameuse blogueuse. Ils ont entré dans la maison, ils n'ont rien pris. Ils n'ont rien pris, ni les argents, ni l'or, ni rien. Ils ont pris les disques durs, les PC, les caméras. Donc ça nous fait rire à l'intérieur. Même les mêmes visages qui me surveillent, Le lendemain, elle surveillera Lina. Le jour d'après, elle surveillera une autre personne. Mais ils sont très cons qu'ils nous font rire, tu vois. Le régime de Ben Ali était un régime stupide et qui a encouragé les jeunes à se révolter. Grâce au système de Ben Ali, on a fait la révolution. Donc, si je le trouve un jour, je le remerciera. Donc.
Et aujourd'hui, comment tu vois ton avenir militant ?
Maintenant, je ne peux pas dire que je suis un militant, je suis un activiste. Je suis activiste, j'essaie d'aider les gens, d'aider la Tunisie à la transition vers la démocratie, avec les manières, avec les acquis que j'ai eus, qui vont m'aider à comprendre et à suivre la scène politique tunisienne et à voir si on a besoin de militer de nouveau ou bien d'être vigilant, de critiquer, c'est tout. Tout en étant vigilant, s'il me faut, j'ai caché ma veste de militant chez moi, donc je la reprends.
Elle ressemble à quoi ta veste de militant, si tu devais la décrire ?
Ma veste de militant, c'est mon Facebook, ma page de blog, ma caméscope aussi, les témoignages des gens, c'est ma veste de militant. D'écrire, de critiquer, d'être contre pas contre, mais contre le pouvoir. Face au système non libéraux, non démocratiques.
شقاد يعمل
نو نو اسمع ولا انتم استنوني في القهوه استنوني في القهوه وكاو ليه نجي على ساقيه من دار القهوه
نجم مش باي
جود نايت سويت دريم.
On laisse allier ses camarades à leurs activités associatives. Ils préparent notamment avec leur association un bus citoyen qui va sillonner la Tunisie pendant quelques mois afin de rencontrer les Tunisiens de l'intérieur des terres et les sensibiliser pour les élections. Malika m'attend avenue Bourguiba avec son mari Amine et nous partons faire une petite excursion dans un quartier très riche, le quartier des Berges du Lac. Permet de comprendre la Tunisie sous Ben Ali et le poids de la famille Trabelsi.
Amine, ça va oui. Oui, Amine, t'as besoin d'un coup de main pour rentrer?
Non, merci. Non, c'est ça. Je suis habituée. Merci, ma chère.
هاتي لهم.
Ça, c'est la police. Hein? Ça, c'est la police politique. Les jeunes hommes d'ici. Si, je t'assure, ils sont pleins. Hein?
Pourquoi ils sont toujours là?
Ils sont encore là. Ils sont encore là.
Ah bon?
Écoutez, c'est-à-dire que légalement, la police politique et le RCD, on les a fait, il n'y a plus, mais légalement. Mais non, réellement, ils sont encore. Il y a
comment
encore.
Tu sais que c'est. Moi, je n'aurais jamais imaginé que c'était.
Si on est habitué à vivre avec leur visage, leur comportement, leur gentillesse comme ça, louche. C'est un genre de sixième sens pour nous, tellement qu'on s'est habitué à les voir se comporter. Et puis, quand. Il y a eu le moment d'affrontement. Et ils nous frappaient tout en portant des jeans et tout. Et là, on a reconnu. Moi, je reconnais au moins six visages. Et on se dit maintenant bonjour en se regardant. Là, moi, je leur dis bonjour. Hein, faites gaffe, on est là. Et eux, ils nous disent on est là aussi. Donc c'est une sympathie. Voilà. Quand on a fait le fameux sit-in à la Casbah, c'était un vendredi,
25 000 personnes. Je ne sais pas, vous étiez à la CASPA? C'était un vendredi, le 26 février. Et ils sont restés bon, pendant un mois. Alors, comme moi, quotidiennement, je finis le travail et je rencontre mes étudiants là-bas. Et je rentre à la maison juste pour changer. Et je rejoins les sites inner, si on peut le dire. Au bout d'une semaine, il y avait un agent de police. Et par hasard, le jour d'avant, je portais un manteau vert. Et le lendemain, j'ai changé béret noir et manteau noir. Alors, il m'a dit, « Alors, vous avez changé de manteau vert? Où est le manteau vert ?»« La police. » Oui, je vous assure. Je lui ai dit, écoutez, hein, vous nous surveillez et nous, on vous surveille avec les téléphones portables. Donc, vous êtes filmés, hein, faites gaffe. Ouais. Écoutez, Ben Ali, il a fait la police une victime.
Comment ça?
Parce que elle n'est plus la police de l'État. Elle est devenue la police du dictateur, du régime. Ce n'est pas la police qui est au service du citoyen. Donc il leur faut du temps pour se redresser et faire naître ce sentiment de citoyenneté et tout. Hein. Et c'est, donc d'un côté, on souffre de leur comportement, de leur agressivité, et d'un autre côté, on comprend. D'ailleurs, au bout d'un mois, ils ont fait une marche, la police, en demandant pardon au peuple, et en appelant à faire un syndicat. Et maintenant, ils ont leur syndicat. Est-ce qu'elle va dans le bon sens? Ça m'étonnerait fort. Et moi, je pense qu'elle va peut-être servir les intérêts aussi policiers, idéologiques, je pense. Par exemple, ils refusent qu'on juge les agents qui ont agressé. Donc, de là, le syndicat, c'est... Mais quand même, on vit des petits pas vers la libération. On ne va pas dire qu'on est réellement libéré. Là, on va à une nouvelle ville qui s'appelle El Bouhaira, c'est-à-dire le lac, les berges de lac. C'était de l'eau, si vous voyez à droite, c'était un grand lac. Eh bien, les Trabelsi, la famille royale et les Ben Ali, ils ont vendu tout, ils ont transformé en une nouvelle cité que vous allez voir. C'est le quartier des riches, extra riches même. Donc c'est El Bouhaira ou bien le lac, le grand lac.
Vous m'emmenez faire un peu de sociologie, c'est ça?
Oui, et d'histoire, oui. Là vous voyez les cafés, c'est... Bon, c'est beau, on fait du sport, on peut marcher, profiter pour boire des cafés et tout.
Et tout ça c'est construit par la famille Ben Ali.
Et les sociétés, l'oligarchie, voilà l'oligarchie. L'oligarchie, parce qu'il y a les sociétés étrangères, il y a le capital khaligien du Golfe. Il y a encore le pouvoir économique, du poids économique des familles. Parce que ça me fait peur, moi. Parce qu'il y a leur poids, les chantiers, les grands chantiers, les grands bâtiments et tout, d'économie, ils ont encore la main mise sur. C'est pour cela qu'on parlait... On a du souci pour la sécurité judiciaire et judicieuse, comment... D'ailleurs, ça nous a choqué aujourd'hui, hier, le jugement du neveu de Laïla Ben Ali à 4 ans de prison. C'est pour cela que ce qui nous tracasse, c'est que la justice ne va pas vraiment bien chez nous. Il n'y a pas de justice transitionnelle. 4 ans pour quelqu'un qui a tué des gens, qui a appauvri, c'est un Dracula qui a... Et 4 ans et 30 000 dinars d'amende. Et je pense que les gens vont revenir sur le terrain, parce que ça porte à rire, ces jugements. Regarde cette tristesse, mon Dieu. Très superficielle, très... Et les gens aussi, ils commencent, même s'ils viennent d'autres quartiers, et ils parlent au fil des jours, ils commencent à voir la mentalité de faux bourgeois et de snobs. Et vraiment, c'est du bizarre. Ouais. Ça, c'est le bio. Les jeunes aiment beaucoup. Café aussi. C'est des cafés.
Top happiness.
Top happiness, oui.
En face du bowling du lac.
Ouais,
on
pourrait.
Grosse voiture.
Ouais. Mais tu as vu la révolution, on n'a rien cassé, rien n'est cassé. Et même que les pauvres, ils détestent les gens du lac, des berges de lac. Et ils les considèrent, et c'est vrai. Les faux bourgeois, les profiteurs et tout. Mais avec ça, on a fait notre révolution sans vengeance. Ils ne sont pas vengés de... D'ailleurs, si tu fais une petite analyse, tu vois que Mohamed Bouazizi, celui qui s'est immolé, il l'a fait devant la municipalité, c'est-à-dire ils sont allés au gouverneur plutôt. Il n'a pas mis le feu à l'institution, mais devant l'institution, il s'est brûlé. C'est symbolique. C'est-à-dire qu'on garde notre État, on garde les institutions, mais non aux dictateurs, non à cette classe qui nous a étouffés, appauvris et tout. Donc tu vois, rien de cassé, ils n'ont rien cassé. Moi, quand je suis sortie de la maison après presque 20 jours et pour venir voir ici, je m'attendais à la catastrophe. Eh bien non, ça m'a étonnée. Et là, j'ai compris que c'est vraiment... Il fallait beaucoup de courage et pour ne pas se venger.
Après cette excursion dans les beaux quartiers avec Malika, nous revenons à Tunis et allons dans un autre lieu de la révolution tunisienne, la Casbah. Quartier des ministères et des administrations publiques, la Casbah a été le lieu de la contestation populaire après la révolution du 14 janvier. Deux sittings s'y sont tenus après la révolution, Casbah 1, fin janvier, Casbah 2, fin février, début mars. Des milliers de Tunisiens, venus de toutes les régions de la Tunisie, ont occupé la place et l'esplanade de la Casbah. Ils ont alors le sentiment qu'on est en train de leur voler leur révolution. Ben Ali est parti, mais le régime, et notamment le RCD, le parti de Ben Ali, sont toujours là. Le slogan alors n'est plus « Ben Ali dégage », mais « Ranouchi dégage ». Mohamed Ranouchi est le premier ministre de transition, un proche de Ben Ali. Et à la suite de Casbah 2, les manifestants obtiennent la démission du Premier ministre et d'une partie du gouvernement et obtiennent l'organisation d'élections pour l'Assemblée constituante. On est au mois de juin 2011. On se balade en compagnie de Leïla, jeune Tunisienne, peintre, qui a participé à la Révolution. Aujourd'hui, la place de la Casbah est entourée de barbelés, occupée par des forces militaires, et les murs, il y a quelques mois couverts de tags et de slogans, sont aujourd'hui blancs.
Ah, fraîcheur.
Là, c'est bon, là.
Ah. Ils ont effacé tout. Même on a voulu sauvegarder les graffitis qui étaient sur les murs. Mais ils ont refusé. Du jour au lendemain, ils sont venus et ils font la peinture blanche. Ni graffiti, ni peinture, ni rien.
Là, on monte sur des espèces d'esplanades.
C'est la municipalité de l'Kasbah.
D'accord.
Qui est en haut.
Derrière nous, il y a la place de la Kasbah. Et là, vous aviez plein de tentes, en fait, c'est ça?
Oui, plein de tentes, plein de gens. Tout le monde était présent, de toutes les régions de la Tunisie. Mmh. Ils étaient présents pour défendre leurs droits.
Toi, tu venais ici tous les jours?
Bien sûr, les jours et les nuits.
Tu dormais là?
On ne dort pas, on reste se lever. Mmh. On ne peut pas dormir. Ouais. Parce que c'est en peur. Ouais. Donc, toute la nuit, on regarde, on discute et on parle et c'est tout. On a resté dans cet endroit avec Oudé et quelques autres jeunes.
Des amis à toi?
Oui, et on a resté pour faire des affiches, des banderoles et des...
Vous prépariez les banderoles ici?
Oui.
14 janvier, les gens sont dans la rue Bourguiba. Et quand est-ce que vous êtes là, à Kasbah?
C'est fin janvier. Fin janvier. Et après, en février, fin février, la deuxième manifestation à Kasbah, et ça a duré, la première a duré une semaine. La deuxième, c'est plus lent. Bon. Deux semaines.
Deux semaines.
Oui. Et maintenant, c'est... Bon, les gens, c'est-à-dire les citoyens, ont voulu revenir à Al-Kasbah, mais ils n'ont pas le droit. Comme tu vois, elle est toute fermée. Et maintenant, elle est un peu animée, mais avant, aucun ne peut rentrer ici. Aucune personne.
On ne veut pas qu'il y ait un
nouveau site. Oui, oui.
Pourquoi à Kasbah? Pourquoi le lieu, ce lieu-là?
Parce que c'est le lieu stratégique. Où se passent les rencontres de l'État, des gens, les ministères, les ministres. Et c'est une méthode d'obliger. C'est le peuple qui veut obliger l'État à répondre à ses droits.
Mais c'était quoi l'objectif de ces rassemblements? Pourquoi vous vous rassembliez?
C'est de détruire le régime, l'ancien régime de Ben Ali. Comment dirais-je, de ramener des élections démocratiques. C'est ça, les buts.
Mais comment tu as vécu ces moments-là? Comment tu as vécu ta révolution et la Kasbah?
Beaucoup de choses. C'est le bonheur de rencontrer les gens, de la solidarité d'entre nous. Et aussi, c'est la peur.
Pourquoi la peur de quoi?
Je ne sais pas de quoi, mais de l'agression des gens, des policiers.
De la police de Ben Ali?
Bien sûr.
Et comment tu faisais, toi? En plus, tu es une femme.
Non, dans la révolution, j'étais comme un homme. Courageuse. On n'a pas un problème de femme ou homme. C'est une égalité, je pense que... qu'on a le même... Même les femmes sont plus fortes que les hommes. Je pense. Oui. C'est ça.
Et aujourd'hui, tu crois que c'est encore possible de faire des rassemblements comme ça? Est-ce que tu as la sensation que c'est possible d'être encore solidaire?
Oui, je crois, oui. Mais un peu, les partis politiques ont divisé la société en des tranches. Donc la solidarité ne va pas être complète comme en avant. C'est ça le problème.
Aujourd'hui, il n'y a plus de rassemblement à la Kasbah. Pour cause, depuis ces deux sittings, certains ont tenté une Kasbah 3 pendant le mois de juillet, mais c'était répression policière à la clé. Et aujourd'hui, la Kasbah est toujours embarbelée. La période de transition est plus que jamais période de contestation, de revendication. Et le moment où j'étais à Tunis en juin, c'était des débats partout, des sittings, des grèves. À titre d'exemple, grève de travailleurs intérimaires dans une entreprise de manutention du port de Tunis, en plein centre de Tunis, au siège de l'entreprise, mais aussi un sitting de 126 jours de jeunes professeurs issus de familles pauvres, détenteurs du CAPES mais toujours sans travail, victimes du système Ben Ali, du système Trabelsi, puisque l'embauche s'est moyennant 15 000 dinars. Et un autre sitting qui s'inscrit dans la continuité des sittings de la Casbah, mais rue Mohamed V.
Bon, on va chercher un petit coin parce que c'est...
C'est bruit.
Ouais, il y a assez de bruit. Bon. On va chercher un petit coin là-bas. Comme ça. Là, en fait, on est à la place des droits de l'homme, à Tunis. Et là, en fait, il y a un sitting qui s'appelle le sitting Destin. Et en fait, ça vient suite à une suite de sittings, Casbah 1 et Casbah 2, et par la suite le Casbah 3 qui a été avorté par les forces de police. Et là, le sitting Destin vient contre la répression du nouveau gouvernement de Bejirat Sepsi. Ce gouvernement-là, il favorise en premier lieu les forces anti-révolution en Tunisie, le retour de la bourgeoisie en Tunisie. Nous, en fait, on a une totale conviction que c'est vrai que Ben Ali, on l'a déchu. C'est vrai qu'il a quitté le pays, mais en fait la dictature est toujours présente en Tunisie via les instances du gouvernement, telles que la police politique ou la DST, l'administration tunisienne qui n'est pas toujours saine, disons, les médias qui sont alliés au gouvernement, l'RCD qui a été dissous d'une façon formelle, mais réellement l'RCD est toujours actif sur terrain, quel que soit dans des partis créés récemment ou il a intégré, en fait il y a assez de flux d'RCD qui ont intégré d'autres partis qui sont déjà existants dans la scène politique tunisienne. Là, le sitting Destin vient dans cette suite politique pour exiger quelques demandes concernant la dissolution du gouvernement présent de Bejirat Sepsi, le refus de la dette de la Tunisie, parce que la dette publique maintenant, c'est presque 2 milliards de dinars par personne. Nous refusons cette dette-là qui a été faite dans l'ère de Ben Ali, parce que ce n'était pas une dette qui servait réellement les intérêts du peuple tunisien, c'était une dette pour s'enrichir d'une façon individuelle pour les familles proches de Ben Ali. Et voilà. Le sitting en fait a été organisé à la base via Facebook et il y avait une mobilisation sur internet et là les gens commencent à y venir et à y croire, disons, et vous voyez que le nombre commence à augmenter.
Enfin, maintenant ce qui est idéologie, enfin, les idées défendues, comment ça s'organise? Là je suis arrivée, il y avait une sorte de débat, est-ce que c'est comme ça un petit peu tous les jours?
Les débats c'est un marathon ici, à chaque minute il y a un débat, vu qu'il y a assez de sensibilité politique dans le sitting, en fait il y a de la gauche, des socialistes, des communistes, des marxistes-léninistes, de l'extrême gauche. Il y a des partis de droite, des islamistes, des ultra-réactionnaires, disons. Il y a en fait toutes les sensibilités de droite à gauche, et c'est pour cela que il y a assez de débats au niveau de sitting.
Là, ça continue à débattre, là, non? Tout le monde est serré autour de...
Ça commence à dégénérer.
Moi, je suis Benslam Abdallah, j'ai 27 ans, j'ai une maîtrise en français et un master en littérature francophone et comparée. J'ai démarré ma vie étudiantine, c'est-à-dire au niveau du militantisme au sein du syndicat qui s'appelle l'Union Générale des étudiants de la Tunisie. Je suis de tendance gauche, extrême gauche exactement.
Donc ça veut dire que toi tu militais déjà avant, avant la révolution, tu es un militant de longue date.
Au début c'était syndical. Le syndical a visé politique, c'est-à-dire on ne se limite pas au cadre des intérêts ou des problèmes des étudiants seulement. On a par exemple, je vais donner des exemples bien concrets. Lors des élections du bureau du conseil scientifique au sein de la faculté, c'est-à-dire il y a des représentants des étudiants avec les représentants de l'administration ou du ministère de l'éducation nationale, les militants soi-disant syndicalistes, le parti de l'RCD. Ils ont tout, ils ont l'argent pour soudoyer et pour acheter les voix. Ils ont les milices carrément. Ils ont tout ce qui est matériel, logistique. Ils avaient une large avance contre nous. Donc, pour nous, on avait seulement nos gorges pour ça, pour militer contre eux. À chaque fois qu'il y a les élections du conseil scientifique, nous, on gagne. Bon, il y a 4 places. Parfois, on gagne 3, parfois, on gagne 2. Donc, à chaque fois qu'on gagne 3 ou 4, c'est-à-dire, moi, ce soir-là, je suis sûr que je vais être battu. Soit par les milices de l'RCD, soit après par la police politique de la... C'est pas un constat, c'est une évidence. Et il y a aussi une autre bataille sur le plan culturel. On a par exemple les associations au sein de la faculté, les clubs. C'est-à-dire, on fait toute une stratégie avec nos petits moyens. On essaie de créer des clubs, par exemple, clubs de cinéma. Ils s'affichent comme clubs de cinéma. Donc, mais on choisit très bien nos films. Nous, on essaie de faire de ça une sorte de tremplin pour passer nos... On choisit le film qui peut susciter la contestation et l'esprit révolutionnaire chez les jeunes. Par exemple, pour le club de théâtre, on choisit des textes vraiment, par exemple, on choisit Beckett, on choisit des textes vraiment révolutionnaires. Ou les grandes dates qu'on fait, par exemple, on choisit un événement que même le gouvernement, le parti unique, il choisit comme événement. C'est-à-dire, on passe, quand on va parler à l'administration, nous, on va fêter comme tout le monde, la journée de la femme, il n'y a aucun problème, on passe. Et après le lendemain, quand on vient avec nos affiches, c'est autre chose. C'est-à-dire, le même événement, mais on le détourne. On le détourne pour nous. On ne laisse pas un espace qui est vide, parce que le vide crée le néant. On essaie de s'incruster et de remplir tout vide ou tout espace que le gouvernement peut nous laisser. Pourquoi on cible les espaces, surtout les espaces culturels? Par exemple, Amnesty International ou la Fédération tunisienne des clubs de cinéma ou la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs. C'est-à-dire, eux, les personnes qui vont venir à ces espaces-là ou à ces événements-là, ils sont déjà prédisposés, c'est-à-dire culturellement, ils ont un esprit large, un esprit critique. Il existe cet esprit-là, mais on essaie de l'orienter. C'est-à-dire, toi qui crois que le petit bourgeois éclairé, moi que j'appelle le petit bourgeois éclairé, qui croit que tout va à merveille, tu te prétends comme un esthète et tu t'intéresses à la littérature et au cinéma et tout. Mais c'est pas suffisant ça. Si t'es vraiment un cultivé, un intellectuel, c'est en combattant cette dictature. C'est en défendant les opprimés. C'est militer dans la rue et dire à haute voix que ce régime est un régime dictatorial qui n'a pas de place ici dans la Tunisie et il faut le combattre, clair et net. Donc on essaie de rallier à notre cause les personnes qui sont prédisposées à ça, sans entrer dans, sans qu'ils militent au sein de mon parti, c'est-à-dire sans qu'il appartient idéologiquement à mes principes. C'est-à-dire pour moi, c'est pas important qu'il soit marxiste-léniniste, stalinien, pro-albanais. Ça, c'est, pour le moment, moi, ce qui m'intéresse, c'est lutter contre la dictature. C'est-à-dire, je rallie à ma cause autour de moi, et après le 14 janvier, ou après une vraie révolution qui va consolider ou qui va appuyer les buts de cette révolution, après, tout le monde va essayer de faire à rallier à son parti pour militer contre son programme et tout. Donc c'était ça, les premières étapes de mon militantisme. Les conditions, elles se sont améliorées, tout simplement. Les conditions du militantisme, elles se sont améliorées. C'est-à-dire, moi, quand je vais faire une assemblée générale dans une université, ou quand je parle dans un café, je blâme son gouvernement, je ne risque pas que deux minutes après, je vais être dans la police. C'est-à-dire, les conditions se sont améliorées d'un cran. Moi, je parle là d'une révolution. C'est une révolution, mais qui n'a pas pu ou qui n'a pas su jusqu'à maintenant accomplir les objectifs de la révolution. Les objectifs de la révolution, c'est une presse libre, c'est des médias libres, c'est pas des médias qui parlent ou qui donnent une sorte des prérogatives et des raisons pour les partis politiques qui sont pro-gouvernementales et qui défendent par exemple le gouvernement qui est en place et qui essayent de camoufler ou de faire taire les voix des autres partis qui sont les partis qui ont milité avant le 14 et après le 14. C'est-à-dire, c'est pas les partis de la 25e heure de la révolution.
Abdallah expliquait comment il luttait sous Ben Ali, les stratagèmes utilisés pour lutter, et j'ai demandé à Malika comment elle faisait pour exercer son métier de prof de philo sous la période Ben Ali.
Un prof de philo, ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie d'abord des contradictions, des paradoxes qu'on doit bien gérer pour éviter la giole, si la prison. Bon, entre guillemets, hein. On a milité pour avoir des programmes et grâce à le rationalisme de Bourguiba, c'est-à-dire parler de la démocratie, de la liberté, des régimes, qu'est-ce que sortent des régimes, etc. Mais le problème, c'est que avec Ben Ali, précisément, on ne pouvait pas dire que les élections sont fausses, que c'est toujours à 99, comme si le peuple a choisi Ben Ali. On ne pouvait pas le dire. Mais et en même temps, on a le texte, carrément, les droits de l'homme, dans le livre.
Et, dans le programme.
Oui, dans le programme.
Et il y a la démocratie dans le programme.
Oui, tous les droits. Oui, la démocratie.
C'est une notion qu'on peut aborder.
Oui, la démocratie, à travers, depuis les siècles de Lumière, des Lumières, avec Kant, Jean-Jacques Rousseau, Hobbes et tout, jusqu'au régime arabe, jusqu'à notre temps. Et ça, et là, il y avait un réel embarras. C'est que avoir un étudiant en terminale, c'est 18 ans. C'est quelqu'un qui commence à réfléchir réellement et à poser des questions. Et là, moi, personnellement, je me trouvais embarrassée par une chose. Où je vais mentir, faire avec le régime, faire avec marcher, comme on dit chez nous, juste à côté du mur. C'est-à-dire, dire, bon, la démocratie, c'est choisir son gouverneur, etc. Pour échapper à la surveillance, à la police. Et la police, tu sais, il y a aussi la police intellectuelle. Les directeurs, c'était les représentants du ministère. Tous les directeurs des lycées. Ou bien, parler carrément dans un esprit critique. Dire la vérité que, oui, la démocratie, ça c'est un droit, mais qu'il n'y a pas de démocratie. Je faisais la deuxième. J'ai choisi, et la majorité, il faut dire, je salue mes collègues, la majorité de mes collègues profs du philo, je les salue vraiment, la majorité, pas tout, hein, parce qu'il y avait aussi des RCDistes. Là, il y a des gens qui parlaient carrément, alors je parlais carrément avec mes gosses de la démocratie. Qu'est-ce que la démocratie et pourquoi chez nous la démocratie dans le monde arabe, dans notre monde arabe, la démocratie, il n'y a pas de démocratie et j'explique Bon, j'explique pour des raisons historiques, parce qu'on n'a pas fait nos révolutions bourgeoises, la révolution bourgeoise, parce qu'on n'est pas passé à des sociétés, c'est-à-dire pour faire la libération des démocratiques, on est encore des régimes sous nouvelle colonisation. Donc, j'explique l'historique pour justifier le présent. Il faut leur apprendre un esprit critique pour qu'ils reviennent à l'histoire, pour trouver leur façon de militer. Ce n'est pas moi de leur dire d'aller faire les sit-ins. Ce qui m'a poussé à faire aussi d'une manière rusée, qui n'est pas innocente, c'est que un bon militant ne doit pas se donner gratuitement au régime. Et c'était ça ce que je voulais. Je me disais tout le temps, même je me rappelle que sincèrement je parlais avec mon père, parce que mon père c'était un des fondateurs du Destour, c'est-à-dire du premier parti, entre guillemets, de libération. C'était le Destour avec Bourguiba et tout. Donc il me disait tout le temps, ma fille, fais attention à deux choses. Fais attention à ne pas donner ta raison qu'à ce que tu crois, et fais attention au régime. Au Ben Ali, carrément. Il n'a jamais... Tu sais, on n'a jamais fait... Papa, hein, il n'a, que Dieu bénisse son âme, n'a jamais fait descendre la photo de Bourguiba chez nous. Et si par hasard, quelqu'un qui venait et qui voyait ça, c'est parce qu'on a enlevé tout de Bourguiba. Nous, il a laissé la photo de Bourguiba. Et depuis, il n'a jamais participé à la vie politique. Donc nous, on a milité à notre façon, notre génération. J'ai milité à la faculté et tout. Mais je me rappelle qu'il me dit, sois bien intelligente. Un militant ne doit pas se donner gratuitement à la police. Donc, cherche à comment dire la vérité sans trahir tes convictions et sans dire, comme on dit un proverbe arabe qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire dire au lion, viens me manger, je suis là.
Mais alors, c'est-à-dire comment on fait si on ne peut pas lutter de manière directe?
Je parlais de la démocratie tout le temps. Quand je prends un texte critique de Kant, des fondements de l'État, ou de Hegel, ou de Karl Marx, de Karl Marx, ou bien Lénine, tout, c'est que je suis en train de faire la critique. Parce que mes grands gaillards, je les pousse, nous tous profs de philo, c'était notre stratégie, on leur pousse à problématiser. Parce qu'il faut toujours problématiser, et quand on problématise, on arrive à voir mieux la réponse. Donc, au lieu de donner des réponses, je les pousse au doute. Oui, et je les laisse, eux, arriver à dire, eh ben, comment ça, on voit des élections à 99, c'est-à-dire que ce n'est pas une démocratie, madame. Je dis, ah, c'est à vous de dire, c'est à vous de voir. Et voilà, je trouve que c'est une façon aussi de militer. Bon, je respecte les normes. Parce que j'ai des élèves qui vont passer le baccalauréat. Je respecte les normes scientifiques et épistémologiques. Mais jamais je n'ai trahi ma conviction politique que nous ne sommes pas libérés, qu'on doit mener une révolution de libération et patriotique et démocratique. Et je disais ce qu'il fallait dire, convenablement, pas dans les normes du régime, mais dans les normes de la philosophie. Parce que je n'aime pas les faire sortir de l'école dans la rue gratuitement. Bah, comme ça, on perd. Hein. Moi, je voulais faire des révolutionnaires inconscients.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est-à-dire qu'ils commencent à porter dans sa tête la révolution, l'esprit révolutionnaire, sans se rendre compte. Mais ils le pratiquent par la critique, par ne pas accepter. Etc. Voilà.
L'esprit révolutionnaire. On a envie de se demander, aujourd'hui, esprit révolutionnaire, es-tu là ? Le 23 octobre, les Tunisiens sont allés voter pour l'Assemblée constituante, l'Assemblée chargée de rédiger la nouvelle constitution tunisienne et qui va former un gouvernement d'intérim jusqu'aux prochaines élections. J'ai revu en novembre Ali, le jeune blogueur, à Tunis. Avec son association, il a monté un bus citoyen, il a parcouru toute la Tunisie, rencontrant les Tunisiens de l'intérieur des terres pour discuter avec eux et les sensibiliser sur l'organisation des élections. Cette expérience l'a beaucoup marqué. Il a vu les disparités entre les Tunisiens de l'intérieur et ceux de Tunis, notamment sur le plan politique. Il a découvert aussi l'analphabétisme des populations. Aujourd'hui, Ali porte un autre regard sur la révolution et il exprime ses inquiétudes par rapport à la victoire d'Ennahda aux élections de l'Assemblée constituante. Ennahda, c'est le parti qui signifie la Renaissance, parti fondé sur les valeurs et les principes de l'islam et qui a obtenu 40% des voix aux dernières élections. Il suscite des inquiétudes surtout au niveau de l'élite tunisienne et notamment des femmes universitaires qui commencent à ressentir la pression.
J'espère être musulman dans un pays laïque dans un état islamique, parce qu'on peut pas s'exprimer, on peut pas faire, on peut pas réagir, on peut pas parler dans un régime qui menace les libertés, qui tous les opposants sont irreligieux.
Parce qu'au fond, moi j'ai entendu beaucoup de Tunisiens qui me disaient, mais nous, on ne remet pas en question le fait qu'on est à majorité musulman, ça c'est pas le problème.
La majorité musulmane n'exclura pas la minorité existante. On partage le pays, on partage pas la religion, on partage le patrimoine, on partage les ressources, on partage l'avenir, mais on partage pas les croyances, on partage pas les religions. Et tu crois au Dieu, c'est ton affaire, je ne crois pas, c'est mon affaire. Tu ne peux pas m'obliger à porter le voile, là, tu ne peux pas m'obliger de faire les prières, ou bien tu ne peux pas m'obliger à ça, mais on a peur qu'on aura le même système que l'Iran. Qu'après la révolution, les partis islamistes ont récupéré la révolution, et on voit maintenant les conséquences de ce régime islamocrate, si on peut le nommer.
Tu peux me donner un exemple aujourd'hui? Tu ressens déjà une sorte de pression?
Bien sûr, je ressens ça. Si, par exemple, je veux faire sculpter quelque chose à l'avenue de Habib Bourguiba, c'est absolument interdit.
C'est-à-dire, quand tu veux dire sculpter, c'est-à-dire?
C'est faire un statue, par exemple. On a voulu dessiner une femme qui est un peu nue, mais c'est de l'art. Mais les islamistes, ils ont fait une revendication, ils ont essayé de nous frapper, ils ont essayé de casser la statue. On était obligé de le ramener ailleurs. On a voulu faire quelque chose de créatif à l'avenue Habib Bourguiba, comme dessiner. On a essayé, un jour avant, on a dessiné sur les murs, sur quelques murs de l'avenue de Habib Bourguiba. Ça a été agréable pour tout le monde. On a essayé de faire chaque jour, des arts existantes. Donc, on a fait le dessin, on a fait la peinture, on a voulu faire de la sculpture, on a voulu faire de la musique, mais vu l'accueil chaleureux des Tunisiens, on a annulé tout le programme. Par exemple, les universitaires menacés dans les amphis parce qu'ils ne portent pas la voile, ça peut expliquer un peu le travail des bases du Nahda. Donc, j'ai peur que Nahda donne un très grand exemple de démocratie, de liberté, en donnant cette liberté à ses bases de menacer, d'islamiser le peuple tunisien.
Parce que eux, quand on les entend, j'allais dire les têtes des Nahda se targuent d'être très modérées, mais tu as le sentiment qu'on laisse faire une partie qui serait plus extrémiste.
Voilà. Une partie qui dirige un peu la société vers l'islam automatiquement, avec la pression des médias, avec la pression du système éducatif. On trouve, voilà, on a le régime islamiste institué en Tunisie sans aucune action politique. On sera dans ce cas-là obligé d'appliquer le charia. Donc, personnellement, j'ai pas peur, j'ai pas tellement peur, parce qu'on va essayer d'être une opposition qui dira non avec un haut et fort. On va essayer d'être là pour que la constitution constituante sera révolutionnaire dans toute l'essence. On va essayer d'être vigilant et conscient de ce qu'il va se passer.
En même temps, vous avez été capable de faire une révolution, de faire tomber un dictateur. Alors, est-ce que, justement, on peut pas compter sur les Tunisiens aujourd'hui pour faire attention à leur propre liberté ?
Malheureusement, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que l'étincelle de la révolution est déjà froide. Les gens cherchent maintenant à manger, cherchent à vivre. Ils ne cherchent pas leur liberté. Et aussi, la police revient en force dans les rues et on les trouve devant nous, à l'avenue de Habib Bourguiba, avec leur voiture, avec leur combinaison. Ils ont occupé le Habib Bourguiba. Je ne pense pas que les Tunisiens ont l'audace maintenant de faire même une revendication à l'avenue de Habib Bourguiba. Ça nous pose des problèmes parce qu'on ne croit plus à la révolution comme elle a été. Maintenant, on a fait une révolution. On a fait une révolution et j'espère qu'on fera une autre. Si on continuera comme ça, on aura. Je suis presque sûr qu'on va faire une révolution dans 10 ou 15 ans.
Je t'entends un petit peu, un peu inquiet, un peu pessimiste par rapport à ce que j'avais entendu de toi il y a quelques mois. Est-ce que tu m'avais dit, moi j'ai caché ma veste de militant et je la ressors dès que s'il y a besoin. Alors elle est où là ta veste de militant ?
Ma veste de militant politique peut-être, elle est un peu dans l'étagère, mais ma veste de militant dans la société civile, elle est sur moi déjà. Parce que maintenant notre problème c'est que notre peuple sera un peu plus conscient de l'échéance politique et un peu sera plus investi dans tout ce qui est politique.
Comment faire ? Est-ce que là déjà tu es en train de d'être actif sur tes blogs, sur internet ou sur le terrain ?
J'ai vu que l'internet il est trop élitiste donc pour les zones rurales du Gasserine ou bien les zones rurales du Sidi Bouzid, ça n'existe pas. La notion de l'internet n'existe pas, même pas l'internet. On va changer radicalement notre plan d'action, notre champ d'action surtout. On va garder les blogs, l'internet, le Facebook, tout, mais on va travailler avec les gens sur terrain.
C'est-à-dire qu'en fait, alors qu'on avait parlé d'une révolution, pourquoi pas révolution Facebook, tu vois les limites du média, ouais, au sens où ça touche que l'élite ?
Ça touche que les élites, et les élites, ce sont des personnes incapables. J'ai vu que les gens ne les écoutent pas. Premièrement, les gens qui ont fait la révolution par internet, sur Facebook, n'existent plus.
C'est-à-dire ?
N'existent plus. Ils n'ont pas eu leur place dans l'assemblée, ils n'ont pas eu leur place dans la rue, ils n'ont leur place que dans les télés franco-tunisiennes.
Tu parles de qui exactement ? C'est-à-dire des blogueurs ?
Je parle des blogueurs, je parle des cyber-activistes, je parle des Facebookers qui ont presque fait la révolution médiatique. Or que notre révolution a été servi, on peut pas nier qu'il a été servi par l'internet. Tout le monde a écouté, a entendu la révolution tunisienne à partir de l'internet. Et les médias aussi, ils ont été présents par internet. Ils ont passé les vidéos qui ont été diffusées par internet. Ils ont été proches d'événements par internet. Mais sur terrain, c'est autre chose. Personnellement, j'ai trouvé que la révolution sur internet, c'est bien, mais ça ne reflète pas ce qui est dans la rue.
Pourtant, ce qui était dans la rue le 14 janvier et les autres jours, c'était...
Le 14 janvier, personnellement, je trouve le 14 janvier, c'est le cauchemar de la révolution tunisienne.
Pourquoi ?
Parce que le jour... Le 14 janvier, c'est, comme vous le savez tout le monde, que Ben Ali il a quitté le pouvoir, il a quitté la Tunisie. Il a été peut-être la vitrine ou bien où on peut raccrocher le passé de la Tunisie. Or que c'est pas vrai, c'est pas Ben Ali seulement, c'est tout un régime avec les instituts existantes.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, on a offert Ben Ali en sacrifice.
En sacrifice, avec la famille de Ben Ali, avec la famille de Trabelsi. Ce sont, voilà, les méchants. Voilà, on les passe à la tribunal, mais les autres qui ont servi, qui ont aidé Ben Ali, ils ont été obligés. Je sais pas comment, mais ils ont été obligés à suivre Ben Ali.
C'est-à-dire, non, tu veux dire que les autres, on les a laissés, quoi.
Jusqu'à maintenant, on n'a jamais entendu parler d'un ministre corrompu.
Oui, mais alors ça veut dire, quand tu dis que c'est le début du cauchemar, c'est peut-être un peu fort.
Oui, c'est le début du cauchemar pour la révolution tunisienne, parce qu'on a voulu couper avec l'ancien régime, mais on a coupé avec la révolution en y allant vers la transition. Le 14 janvier a aidé le système à se remettre, à se réinstaller.
Mais ça, t'as l'impression que c'est maintenant que tu le vois ?
Je l'ai vu, je viens de le voir après le 23 juillet, 24 juillet, où les gens commencent à parler du constituant. On a vu que les partis... Ils ont oublié la révolution, ils commencent leur campagne électorale. Ils ont oublié tout ce qui a été en disant pour satisfaire telle ou telle personne. Ça, c'est...
Non, mais... Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la révolution n'est pas allée jusqu'au bout, selon toi ?
Selon moi, on n'a pas fait une révolution. On a fait des revendications. Ils ont mené à tomber Ben Ali. C'est tout. On n'a pas fait une révolution. Carrément. Je ne sais pas pourquoi les gens disent qu'on a fait une révolution. On a fait des revendications qui ont mené à faire tomber Ben Ali et la famille Trabelsi aussi.
Quand tu dis qu'on n'a pas fait de révolution, c'est parce que la révolution pour toi implique, comme tu disais, casser le système.
Oui. C'est casser le système et changer radicalement tout ce qui est ancien. Donc, personnellement, j'ai rien vu de cela. Donc, peut-être pour cela, je suis un peu pessimiste. Parce que j'ai cru à la révolution avant le 14. Et j'ai cru que le 14 va être le début de la révolution dans tout ce qui est rendre compte avec l'ancien régime et passer à la justice. Mais j'ai vu que ça n'existe pas. On n'a pas un système juridique honnête. On n'a pas un système juridique qui peut mener à la justice aussi. Donc j'étais un peu choqué, mais j'étais un peu obligé aussi de garder espoir dans les jeunes qu'ils vont continuer leur révolution. Mais là. Ils ont changé leur champ de bataille. Peut-être je suis avec eux dans ce sens. On doit changer les mentalités des Tunisiens. Puis on parlera du changement radical du système. On change les mentalités. On parle d'une révolution intellectuelle un peu et créer des gens dépenseurs, on crée des gens qui ont l'esprit de réflexion politique. Puis on peut parler d'une révolution en créant des leaders, parce que peut-être l'absence de leaders dans les revendications, je veux plus parler d'une révolution, des revendications tunisiennes, ça nous a un peu manqué et ça nous a mené jusqu'à ici, jusqu'à cette situation actuelle. Donc.
C'était un reportage effectué en juin dernier et en novembre à Tunis, dans la Tunisie d'après la Révolution, militée hier, aujourd'hui et demain. Vous pouvez réécouter l'émission vendredi matin lors de notre rediffusion entre 8h30 et 10h et sur notre site internet www.loldf.org. Sur ce site d'ailleurs, un certain nombre d'archives et aussi d'archives autour de la Tunisie. Je vous conseille de réécouter l'émission diffusée mercredi 14 octobre 2009, La Tunisie de Ben Ali, et l'émission que nous avions rediffusée mercredi 2 février 2011 sur les révoltes du bassin minier de Gafsa.